bande de petits vénards, regardez vos montres à gousset et autres ordinateurs portables qui vous indiquent l'heure. Il est 20h sur Radio G. Soyez toutes et tous les bienvenus, c'est Quasar on the Air, Stéphane Corbin, pour vous servir pendant une heure l'émission de Quasar, le centre LGBTI d'Angers, plus même d'ailleurs, pour lesbiennes, gays, bi, trans et personnes intersexes, et puis les personnes non-binaires, asexuelles, agenre, gender fluide parfois aussi. Toutes ces personnes-là, ben, on parle d'elles en général, ou plus particulièrement dans cette émission sur Radio G, radio-g.fr pour les podcasts que vous retrouvez, puisque l'émission a lieu tous les 15 jours. Une émission qui va démarrer sur les chapeaux de roue, parce que figurez-vous, nous avons des bonnes nouvelles, et ça arrive de temps en temps, et on ne s'en prive pas pour vous en faire part, puisque aujourd'hui est tombée la condamnation pour injure homophobe contre Éric Zemmour, et nous aurons l'avocat Étienne Desoulières qui a obtenu cette condamnation devant les tribunaux de Paris. Et puis nous devrions avoir, parce qu'il est très occupé, Olivier Klein, c'est monsieur Dilcra pour le délégué interministériel de lutte contre les discriminations et surtout contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBTI. Et puis, on terminera l'émission. Au moins, nous aurons au téléphone Marie Gode, pas n'importe quelle frangine, une sœur de la perpétuelle indulgence, qui nous parlera de ressourcement. C'est vrai qu'on en aurait peut-être aussi besoin, mais le sens est très précis pour les sœurs de la perpétuelle indulgence qui œuvrent, et vous le savez, mais je vous le redis si vous l'apprenez là maintenant, qui œuvrent pour les personnes porteuses du VIH.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain, ouais tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement, pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes, entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes, pour rattraper le temps qui presse. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes, pour attraper le temps qui presse.
Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse.
le tout nouveau Eddie de Préto, Love and Tendresse.
C'est tout.
La RNT, la radio qui vous suit partout, également sur le net évidemment, mais qui change les habitudes. Allez, nous ouvrons l'agenda de Quasar, le centre LGBTI d'Angers. Alors d'abord, les locaux se situent 15 rue de Jérusalem, entre l'avenue Pasteur et le boulevard des Deux Croix, ou si vous préférez, le mur du cimetière de l'Ouest. Non, de l'Est, pas le même endroit. Alors, l'agenda, il s'ouvre tout simplement samedi prochain, avec, comme d'habitude, tous les samedis, les cours de français dès 10h. Alors, vous pouvez vous inscrire, c'est ouvert pour les demandeuses, demandeurs d'asile, ou toutes les autres personnes LGBTI qui ont besoin de se familiariser avec la langue, parce qu'ils en ont besoin. Vous nous contactez sur le mail général de Quasar, contact@quasar.fr. Et puis si nous ouvrons l'agenda maintenant d'octobre, on découvre que, oh merveille, le mercredi 4 octobre, nous fêterons nos 30 ans. Roulement de tambour et bravo. On vous prépare tout un programme dont on aura l'occasion de vous dévoiler les contours très prochainement. Le jeudi 5, c'est le rendez-vous à 19h de Transparent, la rencontre des parents, des membres de la famille qui ont une personne transgenre, à genre ou non-binaire, dans leur cercle proche et qui viennent en parler parce que c'est compliqué ou parce que c'est facile ou qu'ils ont besoin de conseils les uns les unes, et ils en parlent avec des personnes de la team Transinter, des personnes concernées et aussi des personnes cisgenres avec qui ils peuvent échanger et libérer la parole et finalement arriver à trouver des solutions. Le vendredi 6 octobre, Quasar participera à l'Assemblée Générale du RAVAD, le réseau d'anti-discrimination et d'aide aux victimes d'agressions et de discrimination. Et cette Assemblée Générale aura lieu au Sénat, au Palais du Luxembourg. Le samedi 7, alors comme un samedi, mais vous notez bien qu'il y a un temps particulier. À 10h, les cours de français, ça on est bien d'accord, toujours sur inscription. Et dès 14h, un nouveau rendez-vous avec Because pour les personnes bi et pan qui vont pouvoir échanger entre elles. D'abord regarder un court-métrage de l'association Because. Et puis ensuite, il sera question du rapport d'enquête sur la biphobie et la panphobie, de façon à connaître la réalité de ce que vivent les personnes en chiffres et en actes. Et puis à 17h, comme tous les samedis, la permanence. Le dimanche 8 après-midi, c'est traditionnellement le deuxième dimanche du mois. Et ce deuxième dimanche, c'est une après-midi jeu, de façon à pouvoir se détendre, en profiter et être vraiment tous et toutes ensemble, de façon à pouvoir se détendre. Le mercredi 11 à 18h, c'est la permanence juridique. Vous venez, vous posez toutes vos questions, vous êtes victime d'agressions ou d'injures, vous nous en parlez et on agit avec vous. Le jeudi 12 octobre, c'est un nouveau rendez-vous avec Quasar on the air, ici même sur Radio G. Et puis le samedi 14, cours de français à 10h, et à 15h, c'est le rendez-vous bimensuel du groupe ou du pôle 15-25 ans, c'est-à-dire que les 15-25 ans chez nous prennent le temps de se réunir, et ce sera à 15h le samedi 14, suivi à 17h de la permanence. Allez, dans quelques instants, notre première invitée, et on parle de la fête à Éric Zemmour. Comme quoi les avocats sont très occupés. Donc Étienne Desoulières va nous rejoindre dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, mais on ne perd pas au change, puisque entre-temps, nous allons rejoindre Marie God. Bonjour Marie God. Alors, Marie God nous rejoint, et Marie God est la mère supérieure du couvent des Chênais, c'est bien ça?
Oui, c'est exact. C'est la mère supérieure du couvent des Chênais. Depuis quelques années, ça fait un certain temps.
Voilà. Alors, on rappelle où se situe le couvent, sa zone géographique d'activité
et... Alors, le couvent des Chênais, au départ, a été créé à Aix-en-Provence parce que nous étions sur Aix-en-Provence. Et maintenant, nous sommes à Charonne-Maritime et à côté de Saint-Jean-d'Angély, entre Saintes et La Rochelle.
Voilà, sur le territoire d'Adéos, très exactement.
Voilà, sur le territoire d'Adéos. Tout à fait, Adéos étant à Saintes. Et on regroupe la mission des Cagoles qui est restée à Marseille, qui fait partie du couvent des Chênais. Voilà.
Alors, on rappelle ce que sont les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence pour celles et ceux qui ne le sauraient pas et qui ne seraient pas habitués à ce langage.
Je vais faire assez court. Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, c'est une association qui a été créée par... Des civils, des garçons à San Francisco il y a en 1979, c'est ça?
Oui.
Un jour de Pâques, et c'était un petit peu, au départ c'était une action de visibilité parce qu'ils fréquentaient des boîtes où les gays disaient du mal des lesbiennes, voilà, c'était un peu chacun son coin et tout ça. Ils en ont eu marre, ils ont dit, écoutez, quelle que soit votre sexualité, que vous soyez gay, lesbienne, folle, cuir, etc., le principal, c'est de respecter les autres et de vivre ensemble. Ensuite, en 80-81, les premiers cas de sida sont apparus aux États-Unis. Et là, les sœurs ont été les premières à faire des plaquettes de prévention, pour expliquer, de distribuer des préservatifs et de faire des spectacles de rue ou des spectacles dans des établissements pour récolter de l'argent pour aider les malades pour les médicaments et aider les familles à suivre et à aider les familles à supporter la maladie des malades qui venaient d'être déclarés.
D'accord.
Voilà. Donc ça a été créé aux États-Unis et puis ensuite ça a été créé en 1991 à Paris. Le premier couvent a été créé en France à Paris, qui était le couvent de Paris.
Voilà. Et donc il y a eu des couvents dans différentes régions. Il y en a eu dans l'Ouest, ça s'appelait le couvent Douille, Ouest intérieur littoral, avec Carmen Sida et plein d'autres sœurs. Et puis elles ont pris leur retraite, encore que Carmen sorte de temps en temps. Rechausse les talons.
J'ai entendu ça, oui.
Et oui, je confirme.
Voilà, et là, il y a le couvent de Bordeaux, qui est le couvent je me rappelle plus.
Ah.
Oui, le couvent de Bordeaux-Aquitaine,
oui.
Qui a été créé par la mission des Grâces, qui était une mission qui dépendait du couvent déchaîné.
Voilà.
Voilà, ils étaient avec le couvent déchaîné et cette année, ils ont créé le couvent Bordeaux-Aquitaine, avec la bénédiction du couvent déchaîné.
Voilà, et au passage, on remercie le mari d'avoir soufflé la bonne réponse. Hein,
c'est voilà. Ça oui, parce que bon, il y a on n'est plus très jeune, donc il y a des fois des petits moments où on oublie des choses.
Ben voilà, on a un souffleur, c'est comme au théâtre, tout va bien. Alors, Marie-Gaude, on se parle ce soir aussi parce que les sœurs de la perpétuelle indulgence, en l'occurrence celles du couvent des Chênais, organisent prochainement, du 5 au 11 octobre, un ressourcement. Exact. Alors, c'est quoi un ressourcement et ça sert à quoi au final?
Alors, un ressourcement, nous en avions fait, quand nous étions dans le Sud, nous en avions fait 3 ou 4. Alors, un ressourcement, c'est de permettre de vivre une semaine avec des ressourcés, c'est-à-dire des personnes, alors, malades ou pas malades, mais des personnes qui ont des problèmes, et de partager les sœurs avec les ressourcés pendant une semaine, le mal-être, le bien-être, voilà. Donc, ça se passe pendant une semaine. Là, nous prévoyons, comme tu as dit, les dates. Et c'est, en principe, nous lançons pour une quinzaine de ressourcés accompagnés de 5 sœurs. Parce qu'il faut qu'une sœur accompagne au moins, soit responsable de 3 ressourcés. Alors, le ressourcement se passe donc dans un endroit, dans un gîte. Pour nous, là, ce sera un gîte. Et donc, nous ouvrons le ressourcement aux personnes en priorité atteintes du sida ou ayant des problèmes de santé, de traitement, etc. Ou simplement des problèmes de mal-être gays qui viennent de se découvrir gays, qui ont du mal à le vivre et à partager. Voilà, donc nous faisons ça et ça se passe pendant une semaine. Et pendant cette semaine, si tu veux, il y a des moments de libre pour les ressourcer et il y a des moments en commun avec des bénédictions, des moments très très forts comme ce qu'on appelle la cérémonie des lumières où on demande aux gens d'allumer une bougie en pensant à quelqu'un. Alors ils peuvent le dire ou pas, hein. En souvenir des personnes décédées du sida. Il y a des moments festifs avec 2 soirées d'animation style une soirée dansante, style année disco. Et puis, il y a des ateliers au cours de la semaine, c'est-à-dire qu'il y aura un atelier qui sera fait par un médecin en parlant justement des traitements et de toutes les nouveautés qu'il peut y avoir médicalement. Il va y avoir un atelier qu'on appelle de toucher, c'est-à-dire de permettre aux gens de se libérer de leur corps, c'est-à-dire du toucher, c'est-à-dire de penser à pas avoir honte de toucher quelqu'un, etc. Il va y avoir un atelier de cerf-volant qui est proposé par la personne qui est propriétaire du gîte. C'est un cerf-volant, donc les ressourcés vont faire construire des cerfs-volants et nous irons sur la plage à côté de La Rochelle, à Château-Layan, pour faire voler les cerfs-volants. Voilà.
En finale, alors, c'est plein d'activités, c'est plein d'émotions.
Plein d'activités.
Et c'est plein de repos aussi.
Oui, c'est ça. Alors, si tu veux, la journée, ce qui est important, c'est qu'on demande aux ressourcés de participer aux ateliers, mais ce n'est pas une obligation.
Voilà.
Mais d'y participer. Et ce qui est obligatoire, c'est les repas en commun du midi et du soir.
Voilà. Ça, on peut prendre toutes les distances que l'on veut. On a peut-être besoin, parce que les émotions sont trop fortes, ou ça remue trop de souvenirs, de s'isoler un temps. Mais les repas sont des moments de partage très importants.
Voilà. Alors, pour te dire, c'était priorité aux personnes. Alors, c'est hommes, femmes, transgenres, concernés de près ou de loin par le VIH ou les IST. Voilà, ou des problèmes de compréhension. Voilà, et des problèmes de langage et de mieux vivre. Voilà.
Alors, c'est un temps de détente normalement et d'émotion pour les ressourcés, mais c'est un moment intense pour les sœurs.
Tout à fait, pour l'avoir vécu, hein, parce que moi j'en ai fait 4 de ressourcement. On donne beaucoup, on reçoit énormément, on donne beaucoup. Donc il y a un partage émotionnel, un partage de connaissances aussi, hein, parce que comme je dis, on n'est pas des professionnels, donc on reçoit tout ce qui est dit et retenu, etc. Et donc et puis il y a un moment aussi de respect, parce qu'il faut respecter s'il y a une personne qui est pas bien, qui a pas envie de parler, ce qui peut arriver, à nous ça nous est arrivé, de respecter du moment qu'elle participe. Et que, voilà, il y a une participation à faire qui n'est pas obligatoire, mais qu'il faut quand même respecter. Et puis, il y a des moments libres, de repos, de visite. On va faire une sortie au bord de mer, au bord de l'océan. Voilà. Et c'est une semaine qui est quand même assez chargée dans l'ensemble. Hein. Là, on a tout le programme, on a fait le programme de toute la semaine. Et puis, il y a des moments de détente. On va faire une ludothèque avec des jeux, des écoutes de musique, des livres à lire, etc. Voilà.
Et tout cela a un coût, je suppose. Comment est-ce que ça se passe? Qui finance?
Alors, tout cela a un coût. Alors, nous avons, si tu veux, nous, au niveau du couvent déchaîné, nous avons déjà récolté des dons, parce que, si tu veux, avec certaines associations avec qui on travaille, comme par exemple pour Marseille, les Guérants d'honneur et les Îles et les Ailes, bon, maintenant, ils ont arrêté. Chaque année, ils font un pique-nique avec les sœurs. Et sur le pique-nique, ils retiennent une certaine somme qu'ils reversent au couvent déchaîné pour le ressourcement. C'est des sommes qui vont directement au ressourcement. Donc, depuis des années, parce que là, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on n'en a plus fait. Donc, avec certaines sommes d'année en année, on arrive quand même à une somme qui est quand même assez importante. Mais on manque un petit peu. Nous avons fait un dossier pour le site d'action qui probablement va nous aider financièrement, une partie. Donc il y a une partie. Et puis une partie, comme on a fait, que vous avez peut-être reçu, de demander aux associations, au couvent de France, des demandes de dons. Alors, ça peut être 50 euros, ça peut être 100 euros, ça c'est selon les associations. Et ces sommes vont au ressourcement, hein, parce que nous avons un compte chez nous qui est le compte de fonctionnement, mais ça c'est uniquement avec les cotisations des adhérents et tout ça, et les quêtes qu'on fait comme ça, des petites quêtes, ou des ventes de livres, ça c'est le fonctionnement. Au compte ressourcement, c'est uniquement, il est bloqué ce compte, c'est ressourcement, c'est avec les dons de toute association ou couvent de France qui veut nous aider.
Et puis si
voilà, nous avons eu un don du couvent un don du couvent de...
Quelle région?
Bon, attendez. Attends, là j'ai un trou. Du couvent du Nord, voilà.
D'accord.
Nous avons eu un don du couvent du Nord, nous avons eu un don de SIDA 33 de Bordeaux, et nous allons recevoir un don du couvent DOC. Ils sont en réunion chapitre et qui vont nous verser un don.
Et ça veut dire que les personnes qui souhaitent vous aider peuvent vous contacter sur vos réseaux sociaux, sur...
Tout à fait. Alors, vous avez dû l'avoir, nous avons un site couvent des Chénets, Instagram, enfin un truc, voilà.
On rappelle juste que Chénet s'écrit C-H-E-N...
A-I-E-S.
Voilà, hein, c'est pas avec un S quelque part qui se balade, c'est à la fin uniquement. Voilà.
À la fin. D'accord.
Bon, voilà. Donc, on a un ressourcement qui se profile début octobre avec des personnes ressourcées, un appel aux dons que les sœurs font. Donc, c'était pour mettre l'aspect sur cette action-là et qui est très importante pour une quinzaine de personnes, soit personnes vivant avec le VIH, soit des entourages, soit des personnes qui ont besoin d'être aidées. Et comme tu l'as dit, ce peuvent être aussi des personnes transgenres, à genre ou non binaire, ça, il n'y a aucune difficulté. Et il nous reste moins d'une minute. L'actualité des sœurs après le couvent, ce sont les marches, je suppose, pour 2024.
Tout à fait, les marches pour 2024. Et nous prévoyons, dans le cadre du ressourcement, de faire avec dans le local d'Adéos deux soirées à thème, c'est-à-dire une soirée avec musicale, demandant aux personnes de venir avec la musique, et on demandera une petite aumône pour participer au ressourcement.
Eh bien, grand merci.
Voilà. Et nous participons, bien sûr, au 1er décembre, les marches, 1er décembre, et le site d'action également.
Très bien. C'était Marie Gode en direct de la région de Charente-Maritime. On vous embrasse toutes et tous, garde-cuisse compris, et on vous dit à très bientôt.
D'accord, merci. Ce que je veux juste signaler, c'est que si vous avez des personnes qui ont besoin d'être ressourcées, vous pouvez nous les envoyer. Après, nous ferons un tri selon les demandes que nous aurons.
Voilà. Hein? Allez, la grosse bise. Ouais. Merci beaucoup.
Merci. Bonne soirée. Gros bisous là-haut. Bisous, au revoir.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Juliette.
Dans un corps vide entrait mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines. Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la Reine Christine. Sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel. Vivre encore colombe ou rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leur pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Mulholliday. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan. Pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Labbé, ou Lou Andréa Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne, mettant psychose, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Miss Ringuette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette, Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loïc Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. Tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire. La Yourcenar, Sarah Bernhardt, ou la très sage Simone de Beauvoir. Une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or. La Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes de Valmore. Les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille. Sylvia Bataille, Anna de Noailles, camarade Alexandra Kollontai. Et les agitatrices de bouche, brandissant l'espoir et la gouge, en langue de bouge, rose la rouge, et la vieille germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame Donia ou Miss Compariotis, ou les Dacis, Sanchez, du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès, et l'empoisonneuse Boccia Lupès. Enfin, j'ai pour être sincère du goût pour les belles arrangères, Yvette Guilbert, Claire Bredeschère, j'irai même jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat, en attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule ou que les anges me fassent la fête. Permettez une ultime requête, faites-la renaître votre frangine en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en Malka Malika ou Marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en bourgandine. Tiens, en Juliette Nourredine.
Juliette, avec les rimes féminines qui lui vont si bien. Nouvelle invitée, je vous le disais, pour cette émission de Quasar on the Air. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Klein, qui est monsieur d'Ilkra, puisqu'il a une particularité, c'est que finalement, son titre, c'est de porter l'acronyme de l'institution qu'il dirige. Bonjour Olivier Klein.
Bonsoir.
Alors, vous êtes exactement, très officiellement, le délégué interministériel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les luttes et la haine anti-LGBT. Mais comme je le disais à l'instant, c'est exactement l'acronyme de l'institution que vous dirigez finalement.
Absolument, le délégué dirige la délégation de même nom.
C'est clair comme de l'eau de roche finalement. Vous avez été nommé le 30 août dernier par le gouvernement en Conseil des ministres. Et vous avez pris la succession de Madame Élyséon, que nous rencontrions régulièrement sur les questions qui étaient les nôtres, puisque Quasar fait partie de la liste des centres LGBTI et qui travaille et qui rencontre la DILCRA. Donc probablement un jour prochain, nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Mais on souhaitait vous inviter ce soir pour parler un peu de votre prise de poste et comment est-ce que vous concevez les choses, et tout de suite de vous interroger sur les autres points qui ne sont pas la haine anti-LGBT, mais l'antisémitisme, le racisme et finalement toutes les discriminations liées aux origines. Est-ce qu'il y a des plans qui sont en cours sur ces discriminations-là? Particulièrement, est-ce que toutes ont des directions, des plans différents, ou elles vont toutes dans le même sens parce que les chiffres et les actions et les discriminations sont en augmentation aussi?
Oui, moi je crois vraiment que lutter contre les discriminations, toutes les discriminations liées à l'origine, liée à l'orientation sexuelle, c'est une absolue nécessité. Si on veut que notre République reste notre République, eh bien, il faut travailler en permanence contre le racisme, contre l'antisémitisme. Et il y a un plan qui a été mis en place, d'acronymes, puisqu'on parle, on a commencé par des acronymes, c'est le PRADO, c'est ce plan de lutte nationale contre les discriminations liées à l'origine, et on va continuer à travailler parce que la DILCRA œuvre depuis de nombreuses années pour essayer de comprendre et surtout d'accompagner un certain nombre d'associations qui œuvrent contre le racisme, contre l'antisémitisme. Et dans ce plan, il y a un certain nombre de mesures qui vont être détaillées et développées pour construire d'abord des parcours de formation, parce que pour lutter contre la discrimination, contre la haine de l'autre, eh bien, on a besoin de se reconnaître et de reconnaître l'autre dans ce qu'il est, et non pas dans ses différences, mais dans nos concordances. Et donc, ça passe par l'éducation, par l'école, par la lutte contre les discriminations dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, parce que ces discriminations existent malheureusement toujours. Et on travaille aussi avec, bien évidemment, le gouvernement pour aller plus loin, pas se contenter de le dire, mais aussi de compter. C'est pour ça qu'on va lancer notamment de nouvelles opérations de testing. Il y a un député, le député Marc Ferracci, qui travaille sur une proposition de loi pour rendre plus fortes encore ces actions de testing, pour faire du name and shame, comme on dit, pour pouvoir vraiment contrecarrer, si ça existe encore, ces différentes discriminations. Et ça fait partie du travail de la DILCRA, tout comme les discriminations, mais et toutes les haines LGBT, homophobie, que l'on peut malheureusement encore connaître.
Mais justement, arrivons à ce point. On rappelle que vous êtes donc le délégué de la DILCRA, mais que vous êtes aussi en étroite collaboration, et finalement, c'est Bérangère Couillard, la ministre déléguée auprès de la Première ministre, qui est chargée de l'égalité des hommes et des femmes et de la lutte contre les discriminations, à laquelle vous êtes rattaché, et vous travaillez ensemble. Finalement.
Absolument, absolument. Il y a ce qu'on appelle un ministère de tutelle sous l'autorité de la Première ministre. Et l'idée d'un délégué interministériel, c'est qu'on voit bien que ces sujets-là, eh bien, embrassent différents ministères. On l'a vu ces derniers jours, le ministère des Sports, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur. C'est pour ça qu'il y a cette double autorité, la Première ministre, la ministre Bérangère Couillard, et puis ce travail en interministériel que je dois mener avec toute une équipe, parce que vous imaginez bien que le délégué n'est pas seul.
Alors, vous avez été nommé finalement dans des temps assez proches l'une et l'autre, puisque Bérangère Couillard est arrivée récemment au gouvernement suite au remaniement, et nous l'avons rencontré à la fin du mois d'août à Lyon, lors des rencontres, des 46e rencontres de la Fédération LGBTI. Nous étions accueillis dans le centre LGBTI donc de Lyon. Puisque on ne se connaît pas encore, tout du moins, on a bien vu dans la presse votre photo. Vous êtes un ancien ministre du gouvernement précédent. Vous étiez ministre chargé du logement et de la ville, et vous aviez comme ministre de tutelle à l'époque Christophe Béchu. Donc vous comprenez bien qu'en qu'angevin, nous, on voit bien de qui il s'agit. Et vraiment,
oui, bien sûr.
Et
le régional de votre étape.
Exactement. Ancien maire d'Angers, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, mais qui est toujours, effectivement, toujours conseiller municipal. Donc, je reviens à votre entrée en fonction, parce que ça n'a pas manqué. L'actualité a été assez chaude, et récemment encore, avec les événements qui se sont déroulés au Parc des Princes, avec la rencontre PSG-OM. Là, c'était le dimanche 24 septembre, et ces chants homophobes. Et tout de suite, en guise d'apéritif de vos activités, vous avez déjà saisi le procureur de la République.
Oui, il se trouve que j'étais présent au Parc des Princes, que immédiatement j'ai trouvé ces chants insupportables, choquants. Je n'ai pas compris qu'il n'y ait pas une réaction du speaker, du délégué, et je m'en suis ouvert aux gens du PSG que je connaissais et qui étaient présents pour leur dire que c'était insupportable et qu'il fallait réagir. Et dès le lendemain, avec l'accord de Bérangère Couillard et d'Amélie Oueda Castéra, la ministre des Sports, eh bien, j'ai fait ce qu'on appelle un article 40, mm-hmm. la DILCRA peut faire, c'est-à-dire saisir le procureur pour que le procureur qualifie ou non, parce que oui, je ne suis pas procureur, c'est la justice qui a maintenant été saisie, ces actes comme homophobes. En tout cas, moi je le crois, et ils le sont, parce que les mots sont blessants, les mots sont insupportables, et donc je crois qu'on ne peut pas dire, comme je l'entends ces derniers jours, que ces mots sont simplement anecdotiques, que c'est de l'habitude ou du folklore du football. Non, c'est aussi parce qu'il y a ces mots, parce qu'il y a ces comportements dans les stades, que des jeunes décident de ne pas faire de sport à cause de leur orientation sexuelle, ne font pas de foot parce qu'ils ont peur de la réaction de leur partenaire, ne font pas de foot parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont entendre descendre des tribunes. Et donc c'est notre responsabilité de dire stop à ces agissements, et la Ligue de foot, les clubs doivent se saisir de cette problématique et se donner les moyens, par l'éducation, par la sanction, d'interrompre ces chants parfaitement ignobles.
Il y a 15 jours, nous recevions à ce micro même Rouge Direct, qui a une action très très incisive vis-à-vis de ces situations-là, et qui décide aussi de déposer plainte, et qui s'attaque à la question des droits de retransmission. Vous pensez que le gouvernement, avec les bonnes pratiques de ce qui se passe à l'étranger, pourrait arriver à faire entendre raison à la Ligue de foot professionnel ou pas?
Moi, je crois que il ne faut jamais renoncer à l'intelligence. Donc, tous ensemble, avec les clubs, avec la Ligue, avec les télévisions, il y a beaucoup d'argent dans le football. Et avec l'intelligence collective. Moi, j'écoutais un commentateur sportif très connu, Daniel Riolo, sur RMC l'autre jour, qui disait oui, on est tous responsables. Et oui, ces gens, ces commentateurs sportifs qui ont une aura et qui peuvent parler aussi aux supporters, leur dire voilà, il faut encourager. Moi, je suis chauvin, je suis sportif, j'aime le sport, j'aime vibrer devant un match de foot. Mais vibrer, c'est pas insulter, et surtout avec des propos aussi graves, aussi choquants. La loi a été renforcée avec la préparation des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, quelqu'un qui prononce des insultes homophobes, racistes dans un stade peut être condamné à de la prison, à une amende qui peut aller jusqu'à 15 000 euros, et aussi à une interdiction de stade. Eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est que lorsque ces faits sont avérés, eh bien, on fasse marcher cette loi de mai 2023, prise dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques, parce que c'est grave. Moi, j'étais au stade, je vous l'ai dit.
Et ça vous a marqué, quoi.
C'est parti d'une tribune, et puis d'un seul coup, comme si c'était un jeu, comme si c'était rien, on a vu ces propos ignobles fleurir tout autour du stade. Il y avait des enfants, et moi je crois qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, que ça soit pour le racisme, l'antisémitisme ou des propos homophobes dans un stade. Eh bien, il faut dire stop, et à un moment, eh bien, arrêter le match, faire parler le speaker, expliquer, et puis si ça ne marche pas, peut-être
prendre des sanctions. Les règles,
Faire perdre l'équipe sur le tapis vert, parce qu'on ne fait pas respecter les règles sportives d'humanité qu'on doit trouver dans un stade.
Alors votre action s'est portée... Oui, tout à fait. Votre action s'est portée aussi par une saisine du procureur sur les faits de l'association Torrent de Vie, qui propose des thérapies de conversion suite à la diffusion sur BFM TV d'un reportage caméra cachée, des pratiques qui normalement sont interdites mais qui perdurent finalement.
Absolument. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut cesser de parler de thérapie. Ce mot est complètement obsolète, des pratiques de soi-disant conversion,
mais oui, prétendu.
Il n'y a rien à guérir. Et moi, je souhaite qu'on sorte de notre vocabulaire le mot thérapie. Il n'y a rien à guérir. L'orientation sexuelle n'est pas discutable, et c'est loin d'être, et c'est surtout pas une maladie. Donc voilà, et oui, nous avons saisi là encore le procureur à travers un article 40, là encore en accord avec Bérangère Couillard, parce que c'est pas la ministre, mais c'est bien la délégation qui a autorité pour le faire, et nous allons continuer à combattre ces pratiques d'un autre âge.
Alors, Olivier Klein, puisque vous êtes le délégué interministériel, le responsable de la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines anti-LGBT, vous avez aussi à mener cette action qui consiste à mettre en musique le plan décidé par le gouvernement annoncé avant votre arrivée, et sur un volet aussi où vous êtes très attendu et fidèlement très attendu, c'est le plan de financement qui a été attribué aux centres existants. Alors les centres, qu'est-ce qu'on appelle les centres ? Ce sont les associations qui ont des missions qui sont d'ouverture, d'accueil, d'écoute, de réorientation si nécessaire, ou de traitement des dossiers, comme ce que nous faisons à Quasar 15 rue de Jérusalem. Comment est-ce que ça va se passer ? Parce que la vraie question, c'est comment est-ce que dans les mois qui viennent, très rapidement, en plus des appels à projets, mais pour des projets, comment est-ce que les fonctionnements, les fonds de financement de fonctionnement vont arriver ? Parce qu'en jeu, il y a des salariés finalement.
Bien sûr, bien sûr. Vous avez raison. Les centres LGBT jouent un rôle extrêmement important, et depuis de nombreuses années, j'étais il y a quelques jours au 30e anniversaire du centre LGBT de Paris. On a vu, ils nous ont raconté leur évolution, leurs premiers pas et le rôle qu'ils ont pu jouer tout au long de ces 30 années, avec au début malheureusement notamment la question du sida et toutes les questions de discrimination, d'intégration, de rejet. Et les centres sont vraiment des lieux de ressources très importants, avec une structure associative et souvent dans lequel d'autres associations interviennent. Donc, il a été décidé un plan avec beaucoup d'argent, hein, 10 millions d'euros, pour renforcer ces centres, les pérenniser. Et donc, ça passera par des appels à projets. Les centres, pour beaucoup d'entre eux, nous les connaissons. Nous connaissons la qualité de leur travail. Nous allons construire avec eux leurs demandes de subventions. Il y a déjà eu un effort qui a été fait sur l'année 2022-2023. Et puis nous allons aussi accompagner la création de nouveaux centres. Il est important qu'il y ait des centres dans toutes les régions, deux centres, accompagner aussi la création de centres dans nos départements d'outre-mer, parce que parfois il n'y en a pas et c'est important qu'on les construise. Et donc l'idée c'est bien d'accompagner ces centres sur la durée, et puis d'accompagner aussi les associations qui y œuvrent. Parce que ces centres ne vivent dans leur accueil, mais aussi avec les partenariats associatifs. Ouais, et un centre, c'est la structure, mais c'est aussi, je le crois, les associations qui y sont présentes. Et c'est tout ça qu'on va travailler avec vous, les associations qui constituent cette cheville ouvrière si importante pour l'accueil des personnes LGBT.
Alors on est bien d'accord, hein, il y a les appels à projets naturels de la DILCRA, mais il y a aussi les fonds extraits de ces 10 millions qui sont des
absolument,
fonds de financement, pas sur appel à projets, mais sur fonctionnement, on est d'accord. Hein.
Voilà, on va essayer de rendre les choses les plus souples possibles, même si... J'ai été un militant associatif, je sais à quel point c'est parfois lourd, compliqué, les CERFA, mais c'est de l'argent public, il faut en permanence le contrôler et bien le dépenser.
Et c'est normal.
Voilà. Donc on fera ça, et je veux vraiment saluer le travail des équipes des centres, mais aussi de ma nouvelle équipe au sein de la délégation qui font un travail remarquable. Et puis les préfets, puisqu'une partie se feront par des appels à projets territoriaux, locaux. Et donc, c'est tout ça qu'on va mener. L'appel à projet local, territorial, aura lieu dans quelques jours. Et puis, l'appel à projet national, dès le mois de janvier. Et nous travaillerons avec vous, avec les différents centres, pour préparer ces demandes de subventions, les évaluer, parce que il faut trouver le bon équilibre. Hein. Il y a de l'argent, mais il faut voir comment il est le plus utile possible pour qu'un centre accueille plus de personnes, se développe. Il y aura aussi parfois dans la création de nouveaux centres des besoins en travaux, en investissement, et c'est tout ça qu'on va travailler avec avec les différents centres, notamment les nouveaux, mais aussi ceux qui souhaitent se développer et se pérenniser.
Donc on attend avec impatience le top créneau finalement pour surtout les fonctionnements les financements de fonctionnement pour les centres existants, puisque c'est cette échéance là qui va déterminer très rapidement les budgets prévisionnels, si vous voyez là où je veux en venir.
Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut le faire avec prudence, objectivité, pour répondre aux besoins des centres et surtout aux personnes que vous accueillez dans vos centres et qui ont tellement besoin de vous, que dans des situations qui peuvent être très diverses, hein. Ça peut être juste du renseignement, ça peut être de l'accompagnement sur les questions de santé, les questions de papier, tout ce que vous faites si bien dans vos centres. On sait que il y a ce besoin, et puis il y a aussi des besoins de convivialité, et c'est ça qui est formidable dans les centres LGBT, ce que j'ai déjà vu. Mais il faut pas aussi être angélique. On sait aussi qu'il y a des difficultés financières et que les populations LGBT sont aussi victimes de discrimination et qu'elles ont besoin du travail que vous faites.
Alors, je vous glisse dans l'oreille que nous aussi on a 30 ans dans 5 jours, mais on aura le temps de vous en reparler, ne vous inquiétez pas, on ne va pas fêter ça le jour même, mais on a tout un programme et peut-être qu'on aura l'occasion de s'y rencontrer, en tout cas avec plaisir.
Avec grand plaisir.
C'était Olivier Klein.
C'est pas un hasard d'ailleurs que beaucoup de centres frôlent la trentaine, parce que c'est vrai que ça a été un moment si particulier, si dramatique de l'histoire des populations LGBT.
Voilà, exactement. C'était Olivier Klein qui était au téléphone avec nous, qui est le responsable, le monsieur d'ILCRA. On vous remercie, on vous souhaite une très bonne soirée.
Merci, à bientôt chez vous alors.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, Suzanne. Et juste après, on parle justice avec Étienne Desoulières. Ah non, c'est pas Suzanne. Ah, que dis-je ? Troy Giles Seven.
The personality, not even gravity could ever hold him down. He's got the sexuality of a man who could take a room and drown it out. Yeah. Inching closer to the sunrise. Now we're standing eye to eye. I wanna tell you what's on my mind.
Let's go.
You just got me started, and I don't think I can stop it. And I don't wanna go home alone, right? Oh, baby, baby, why can't I be honest? Kinda miss using my body. Fuck it, just like this body did tonight. Oh, baby, baby.
Got that hot chemistry, you and me, we'll make it out this house. We should experiment even to the detriment of whoever's on the couch. Oh yeah. Inching closer to sunrise. Now we're laying side by side. I wanna tell you what's on my mind. On my mind.
Just like this body did tonight. Oh baby, baby, I don't know if you're tired. I've seen it, don't you worry. Don't
Troy Sivan sur Radio G. Got me started.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Allez, nouvelle invitée. On l'avait prévu en début, mais elle était occupée. Et c'est toujours ça, les avocats, ils sont toujours occupés et au service de la justice et de la défense des victimes. Bonjour, Étienne Desoulières.
Bonjour.
Alors, on vous souhaitait te parler et discuter avec toi de la victoire de cette journée et de la communication d'une condamnation contre Éric Zemmour. De quoi s'agit-il exactement ?
C'est effectivement une condamnation judiciaire par le tribunal correctionnel de Paris contre Éric Zemmour, alors qu'il était chroniqueur pour une émission sur CNews. Je ne me souviens plus exactement des propos, mais les homosexuels, un petit peu comme les musulmans, sont une menace pour la société française et mettent la main sur l'État français pour l'assouvir à leur profit. C'est les propos qu'avait tenu Éric Zemmour. Et le tribunal correctionnel de Paris a considéré que ces propos constituaient une injure en raison de leur orientation sexuelle et donc a condamné Éric Zemmour à 4000 euros d'amende.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la toute première condamnation qu'il essuie sur le critère de l'orientation sexuelle ou pas ?
Oui, c'est la première condamnation, en tout cas à ma connaissance, d'Éric Zemmour pour des propos homophobes.
Alors,
c'est une victoire des associations de faire reconnaître ça. Éric Zemmour avait même créé un moment une association des LGBT avec Zemmour. Et il surfe pas tellement sur une vague d'habitude homophobe. Et il y a même un mouvement homo-nationaliste qui soutient Zemmour. L'homonationalisme, c'est de dire les homosexuels sont pas bienvenus dans les pays arabes, les arabes sont pas bienvenus chez nous. C'est vraiment une logique bête et méchante.
Oui.
Donc évidemment, les associations que je soutiens sont contre ce type de discours et rappellent toujours que les homosexuels qui sont souvent le plus victimes d'homophobie, ce seront des homosexuels qui sont dans des familles musulmanes ou des familles catholiques et donc qui peuvent subir un double contexte de discrimination.
Oui, parce que c'est le critère religieux qui fait qu'ils sont persécutés et nous à Angers, on le sait particulièrement puisque la file active de notre pôle droit des étrangers, c'est-à-dire des personnes homosexuelles ou transgenres qui demandent l'asile en France, c'est une file active de 80 personnes à l'heure actuelle. Donc c'est une réalité.
D'accord.
Et c'est pas autre chose, quoi. Donc, première condamnation à notre connaissance sur l'orientation sexuelle, ça risque de ne pas être la seule, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Donc, actuellement, on a 3 procès en cours contre la Ligue. Il y en a 2 qui sont à peu près pour les mêmes propos. C'était des propos du grand emplacement à la sauce LGBT.
Voilà.
Et un autre qui est différent, qui est un procès en négationnisme, parce que Éric Zemmour a nié que les homosexuels français aient fait l'objet d'une déportation pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il reprenait en cela les propos de l'ancien député du Nord, dont le nom va m'échapper là à l'instant précis, mais qui aujourd'hui sont faux, puisque les travaux historiques des historiens donc ont prouvé que cette assertion est totalement fausse aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. Alors, l'histoire de la déportation des homosexuels a été faite très tardivement. Et ça montre peut-être que on a eu des historiens qui, pendant longtemps, avaient une attitude homophobe dans le choix de leur objet de recherche, et donc considéraient que la déportation des homosexuels, c'était pas un objet digne d'attirer leur attention. Mais depuis les années 2000, il y a plusieurs historiens, il y a eu une série de conférences, et puis ça n'est que à la fin des années 2010, grâce aux travaux combinés de 3 historiens qui sont vraiment allés éplucher les archives en France et en Allemagne, qu'on sait désormais que effectivement des personnes ont été déportées pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de leur orientation sexuelle depuis la France.
Voilà, et c'est pour cette raison-là que la plainte a été déposée.
Ils sont allés dans les camps de concentration et qui ont été exterminés en raison de leur orientation sexuelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et visiblement, Éric Zemmour n'avait pas connaissance de ces travaux et donc a nié cette déportation, ce crime commis contre les homosexuels. Et c'est en cela qu'on le poursuit pour négationnisme.
Un grand merci Étienne Desoulières d'avoir partagé ce succès avec nous et avec Quasar Anzier. On vous souhaite une très très belle semaine. Dans 15 jours, nous nous retrouvons sur Radio G. Bye.
Yes.